l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Comment pouvons-nous vraiment définir ce qu'est un artiste ? Est-ce une personne qui produit seulement du beau ? Ou doit-on aller un peu plus loin que ça et admettre qu'un artiste, c'est une personne qui délivre avant tout un message à travers ses productions ? En tout cas, cette question de message à délivrer est une question qui a longtemps taraudé notre invité du jour. Nous avons nommé Thomas, alias Thomas Billou. Thomas est dessinateur et illustrateur et a mis du temps à se décider à intégrer dans son travail personnel ses propres opinions sur notre société, son devenir au regard de la crise environnementale que nous avons engendrée ou encore sur la notion de collectif. Comment et pourquoi a-t-il commencé à diffuser ses propres messages ? Qu'est-ce que ça lui apporte en tant qu'artiste ? Comment trouve-t-il un équilibre entre ses productions personnelles engagées et son travail de commande qui lui permet de vivre mais qui est au final une parfaite illustration des pressions financières de notre société ? Les réponses sont dans ce nouvel épisode avec Thomas Billou. Salut Thomas !
Salut les gars !
Salut ! Ça va bien, ouais ? Merci, enfin je sais pas comment... merci d'avoir accepté notre invitation, mais tu nous as aussi invité, si vous suivez nos aventures sur Instagram, on t'a invité sur ton podcast qui s'appelle Photoshop. Donc c'est un juste retour de bâton.
De plaisir, on a évidemment fait ça dans cette optique-là pour agrandir nos... Pas du tout, merci beaucoup déjà aussi d'avoir participé à Photoshop, c'était cool. Belle rencontre et beau moment, donc un plaisir de venir chez vous vous rendre ce que vous m'avez donné. D'insultes, beaucoup de médias.
on va démarrer ce podcast un peu tranquillement. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer dans un premier temps comment tu es devenu illustrateur et dessinateur, parce que c'est ton activité première, au-delà d'être un podcasteur de renom sur Photoshop.
On est déjà en 2027, là, putain. écoute, moi, j'ai un parcours un peu à l'ancienne, je dirais. J'ai pas fait d'école particulière. Moi, j'ai fait un bac littéraire, option art plastique au début, qui s'est vite transformé en anglais renforcé. Après, j'ai arrêté, j'ai bossé pendant un an dans la restauration. J'ai eu des mauvais patrons, du coup, je me suis dit, c'est dommage de pas faire d'études quand même. J'ai tenté une série de concours des beaux-arts. J'ai eu celui des... comment dire, du dernier rempart, c'est-à-dire la dernière date pour les derniers à la traîne et tout. J'ai eu les Beaux-Arts de Valence, dans lesquels je suis resté 6 mois à peu près, ça m'a un peu saoulé. Et après, j'ai bossé, je suis parti sur Lyon et j'ai bossé quelques années dans la restauration, toujours en dessinant un petit peu à côté. Et en fait, je faisais un peu blog BD, machin, des petites BD de mon quotidien de barman, nan, nan. pour me chauffer, j'ai fait une rencontre sur la terrasse d'un youtubeur lyonnais à l'époque, et puis c'est une époque où c'était pas balourd d'aller les voir en mode hey, coucou, je dessine, tu veux un dessin? Là maintenant tout le monde le fait, donc c'est un peu relou, mais à l'époque ça se faisait pas trop. Le mec a trippé, je savais que c'était un fan de Dragon Ball Z, moi c'est un peu mon enfance aussi, donc je l'ai fait en Dragon Ball Z, sa commu elle a kiffé, le mec avait un projet BD dans les cartons, donc il m'a proposé, et ce qui fait que j'ai quitté le milieu de la restauration, c'était en 2016, pour me lancer là-dedans, BD qui ne s'est pas faite, mais je le voyais un peu venir, du coup ça m'a plutôt servi de piédestal pour vraiment me chauffer à partir en freelance, mais c'est ça, ce projet-là a servi à ça, et après j'ai fait d'autres petit à petit avec le réseau, un peu dans le réseau du bar que j'avais, et puis d'autres réseaux que je me suis fait petit à petit, j'ai lancé ma freelance avec un peu d'extra toujours à côté au début pour subvenir aux besoins, et puis depuis c'est un peu comme ça, c'est un peu évolué. Maintenant, je suis à Clermont-Ferrand, on est déménagé il n'y a pas très longtemps, je suis dans un atelier, on vit toujours de ce métier-là, c'est cool. On vivote, ça dépend des moments, mais c'est très cool. Donc oui, tu vois, un peu à l'ancienne, quoi.
Mais du coup, toi, t'étais intéressé quand même par l'illustration et puis le dessin depuis que t'es enfant, c'est ça?
Ouais, moi j'ai toujours, un peu comme tout le monde, je dessinais quand j'étais gamin, mais j'avais un grand frère qui m'a beaucoup fait baigner dans la culture comics, manga, et puis les années 80, moi je suis né en 89, donc du coup j'ai vu très très tôt des trucs que j'aurais dû voir à 10-12 ans, mais du coup j'ai baigné très tôt dans le club Dorothée, machin, donc j'étais à fond manga, comics à l'époque, donc beaucoup de dessins en rapport, je voulais devenir dessinateur de BD, c'était un peu le plan d'enfant, et voilà, et la différence c'est que comparément à d'autres gens, moi j'ai jamais arrêté, et on en est là, quoi. C'est un peu ça, c'est plus comme ça que je le définirais, tu peux dire, kiff de gamin qui s'est jamais arrêté, quoi.
Hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats, et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast. Puis tu parlais de bande dessinée, je crois que sur Instagram tu publies quelques planches, est-ce que c'est dans un projet futur quand même de faire une vraie bande dessinée complète, ou c'est juste quelques planches comme ça pour le
film? Eh ben là, les planches dont je pense que tu parles, c'était justement un dossier BD qu'on avait fait avec des scénaristes qui m'avaient contacté, et que dossier qu'on avait envoyé mais qui n'a pas été pris. Bref, c'était la parenthèse du truc, mais c'était pas pour le kiff, enfin c'est pour refaire un vrai truc, du coup ces trucs là. Mais en fait, en signant ce premier contrat à l'époque là en 2016, parce qu'on avait signé le contrat, on est allé loin quand même dans la BD, j'avais fait le storyboard et tout, donc j'ai pu me rendre compte un peu des rémunération du bail, et waouh, c'est de la passion, c'est de la passion dans la passion, hein, je pense, hein, quand même, être auteur de BD, là, pour donner des chiffres un peu aux gens, et c'était il y a quand même, du coup, il y a presque 10 ans, donc ça a encore changé, hein, c'est encore plus misérable aujourd'hui. Tu devais travailler un an, parce que c'était un roman graphique de 120 pages, le bail, donc je devais travailler un an dessus, et c'est quasiment, enfin, c'est vraiment un taf à plein temps à faire. Pour une, du coup, tu touches, quand tu signes le contrat, tu es censé toucher une avance sur droit. Donc là, c'était 10 000 euros. Donc on rappelle, un an, 10 000 euros déjà, histoire de vous donner un peu les idées de comment on vit avec 10 000 euros en un an. et en fait, tu touches pas les 10 000 d'un coup. En plus, tu touches genre la signature du contrat, tu touches 2 000, tu rends le storyboard, tu touches 2 000, tu fais la couverture, tu touches 2 000. Enfin, c'est par étapes. Donc moi, au final, j'ai touché 2 000 euros sur ce projet-là. mais donc voilà. Et en fait, derrière, quand les ventes arrivent, tu dois d'abord rembourser cette avance sur droit, qui n'est qu'une avance sur droit, donc tu dois vendre, tu dois rembourser 10 000 euros dans cet exemple-là, et dans les ventes de 0 à 10 000 exemplaires vendus, tu touches 6% du bouquin, de 10 000 à 15 000, tu touches 7%, et au-delà de 15 000 exemplaires, tu touches 8%. Donc, faut en vendre quelques-unes quand même pour rembourser. Et en fait, une fois que tu as remboursé les 10 000 euros, là, tu commences à toucher des royalties sur ta BD. Une BD aujourd'hui, alors c'est difficile de faire une moyenne parce qu'il y a vraiment trop d'écart entre celles qui se vendent pas et celles qui se vendent, mais si on fait une moyenne, c'est 2000 ventes, une BD de lambda.
D'accord, ouais.
Donc t'es loin des 15 000 ventes pour avoir tes 8% là. Et bon, là, en l'occurrence, c'était une BD de YouTuber. Donc, la BD, elle s'est faite. Elle a fait, je sais pas combien de centaines de milliers de ventes. Tant mieux pour lui. Dommage pour moi. Mais, non, mais c'est pas très grave. C'était, heureusement, je serais pas sorti. J'étais trop jeune et mon trait était trop nu. J'en aurais trop honte de cette BD, je pense. Et du coup, aujourd'hui, le délire, c'est, en fait, la BD, je kiffe toujours. J'aime beaucoup dessiner dans des cases. Je trouve que tu peux te défouler sans avoir l'esprit des grandeurs. Tu te focuses vraiment sur une zone. C'est vraiment trop cool. C'est un gros boulot, donc si j'en fais une aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pour le kiff. Je m'attends pas à gagner de l'argent beaucoup avec ça. Donc ça, du coup, pour le coup, ça serait un projet qui me chaufferait, ce qui était un peu le cas avec ce que j'ai proposé récemment là. Mais c'est vraiment là, c'est un truc que je ferais sur du à côté. Donc bon, ça sera du sacré à côté quand même, un peu intensif, mais je vais pas tout quitter pour faire une BD quoi. C'est un peu voilà. Et puis aujourd'hui c'est encore pire. Là j'ai lu il y a pas très longtemps, je crois, sur Angoulême, je dis une connerie là, c'est des chiffres un peu à la con, mais c'est assez énorme quand même. Plus de 70% des auteurs de BD sont au RSA, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est possible.
C'est assez chaud et du coup en fait le milieu c'est devenu un petit peu, en fait c'est comme tout, il y a tellement de choix, tellement de ventes que c'est trop dur de percer dedans quand il y a des sorties de ouf toutes les semaines, comme le roman, comme le manga. Donc il y a trop, le marché est trop exploité et pour en venir où je dis ça comme bêtise.
Ouais, mais c'est une réalité qui est intéressante parce que c'est qu'on a toujours un peu l'image de ces métiers enfin les métiers d'artiste en fait en règle générale, même la musique, c'est on voit que les en fait, que les gros, quoi, que ceux qui réussissent et qui vendent beaucoup, en fait, soit de CD, soit de livres, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que pour de vrai, pour beaucoup, en fait, c'est précaire
C'est précaire, c'est très. Bon, là, si on reste sur la BD, c'est très commercial aussi. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, les gens, quand ils font de la BD, ils ne vivent pas dans la perspective de toucher des royalties, ils ne vivent qu'avec l'avance sur droit, qui n'est pas à rembourser si ça marche pas. Donc, en fait, les gens, ils font une BD pour l'avance sur droit, ils en font une autre derrière, ils n'attendent pas les ventes. Bref, et comme tu disais, en fait, il y a un truc très commercial aussi, c'est-à-dire que même si ton projet est bien, là, par exemple, sur la BD qu'on a eue, le projet, on a reçu des retours de maisons d'édition très cool, mais qui nous disent en ce moment la SF ça marche pas très bien, notre catalogue il est complet, on est en banqueroute, c'est compliqué de financer des nouveaux trucs, enfin tu vois, c'est le même, la qualité du produit elle fait pas forcément foi. Là c'est modestement, je dis ça, calmez-vous, ça se trouve ça aurait été pas si ouf, mais le dossier apparemment était sympa. Donc même quand le truc est alléchant et tout, il y a des bails commerciaux sur les ventes, sur comment ça marche, qui fait que il y a vraiment un côté aussi être là au bon moment. Ça, qui reçoit le mail dans la maison d'édition, est-ce que c'est Michel ou est-ce que c'est Janine? Janine aura peut-être plus d'attrait avec la SF que Michel, du coup peut-être que Janine elle va valider là où Michel il aurait refoulé le truc. Enfin, il y a trop de hasard, trop de choses un peu aléatoires dans ce milieu-là, et ça marche un peu pour tout le reste. Il y a beaucoup de chance pour très peu de réussite, très peu d'appels, je pense.
Ouais, et puis tu te rends compte que, enfin, toi, j'avais, alors là, j'ai plus parlé dans le milieu de la poésie, mais il y avait une poète canadienne qui s'appelle Rupi Kaur. Ce qu'elle écrit, c'est cool, tu vois, et puis, mais en fait, il y en a plein qui disent, mais elle est publiée parce qu'elle a réussi à avoir une grosse communauté sur Instagram. Et quand tu compares par rapport à d'autres poètes qui sont pas publiés parce qu'ils ont pas une communauté très importante sur Instagram, elle, ce qu'elle fait, c'est pas si exceptionnel que ça par rapport à d'autres, même si ça reste très cool et que c'est très bien écrit et tout. Mais en fait, c'est qu'il y a aussi ce truc-là maintenant que t'as l'impression qu'ils font peut-être les maisons d'édition font le tri avec déjà ceux qui ont de la communauté sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre leurs bouquins, quoi.
Moi, je pense que ça a toujours été un peu le cas à mon avis, mais c'était l'impact ressenti était moins fort. Je pense que de toute époque, t'as toujours eu des gens plus forts qui restent inconnus, là où t'en as des moins forts qui parlent des biais de chance. Là aujourd'hui c'est Instagram, mais avant c'était la connexion, j'en sais rien. Ont eux réussi leur carrière alors qu'ils ont moins de talent, par exemple. Je pense que ça a toujours existé, mais aujourd'hui il y a avec les réseaux sociaux, les trucs, il y a tellement un truc de tout le monde peut devenir un héros un peu, qu'il y a peut-être plus d'appels, plus de frustrés, plus de j'en sais rien.
Ouais, puis avec les réseaux sociaux, t'as ce truc-là de comparaison, alors qu'en fait, tu te dis, comme ce que tu disais, effectivement, tu peux avoir des gens qui sont plus forts, mais moins connus, et en fait, c'est cool de le rappeler, parce que tu te dis, effectivement, il faut pas faire les choses en attendant un certain succès ou une certaine renommée, en fait, il faut vraiment déjà faire les choses parce que... Parce que ça nous fait plaisir de les faire avant tout, quoi.
Bah, je trouve qu'il y a un équilibre. Je dis ça, ça se trouve, on en reparle dans 10 ans et j'aurais changé, mais je sais que c'est pas la même pensée que j'avais il y a 10 ans déjà. Mais je trouve qu'il y a un équilibre. Il y a toujours un équilibre, en tout cas dans ce que je connais dans le milieu un peu artistique là, de dessin, d'illus, de sérigraphie, machin. Il y a toujours un espèce de d'équilibre à avoir entre vouloir réussir en ayant conscience que ça peut pas marcher, à savoir se vendre mais en restant modeste. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc un peu de tu dois toujours équilibrer un peu ce que tu veux, parce que si tu dis juste j'y vais par plaisir, tu t'y mets pas assez dans le projet pour faire en sorte que ça réussisse. Peut-être, tu vois, tu te dis non mais faut que ça reste tranquille ou quoi, je sais pas trop. Ça, je pense que ça dépend un peu de comment les gens le vivent. Moi, j'ai vu tellement de gens qui étaient hyper talentueux, mais qui étaient hyper timides ou trop modestes, justement, de se dire « Non, mais je suis pas légitime à proposer mon truc. » Je dis « Frère, tu vois bien que là, la BD de Hanouna, elle est sortie. C'était déjà une BD de Hanouna avec un dessinateur horrible. Enfin, tu sais, c'est pas possible. Arrête de croire que t'es pas légitime. Vas-y. » Tu vois, donc, mais en même temps, vas-y sans dire t'es le plus fort. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... Il y a un équilibre à trouver un peu, je trouve.
Ouais, mais t'as un peu ce truc-là, je crois, d'un peu, tu sais, dans la science, où t'as beaucoup de scientifiques, en fait, qui ont des projets un peu de fous et qui ont plein d'idées, mais qu'en fait, effectivement, c'est pas mis en avant parce que eux, c'est pas des commerciaux, en fait, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est...
Et du coup, effectivement, ils ont pas cette compétence-là de présenter le truc correctement, machin et tout, mais pour de vrai, leur travail qu'ils font, eux, c'est des trucs exceptionnels, en fait.
Ah bah ça, après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est encore un vaste sujet d'effectivement, quelle est la part de... Je sais pas, tu veux devenir scientifique ou ingénieur ou illustrateur, par exemple, de ce qu'on connaît, disons. tu veux faire illustrateur, quand tu te lances en freelance, tu t'imagines que tu vas faire que du dessin, et quand tu te rends compte, au final, le pourcentage que le dessin prend entre être là au bon moment, au bon endroit, diguer des gens, faire de la connexion, enfin, le commercial, en fait, de ton truc, on va dire un peu, il prend une part dont tu te doutais pas au début, et du coup, bah, ton talent, il a plus d'intérêt là-dedans. Enfin, c'est là que c'est game changer. C'est-à-dire quelqu'un qui va être pas très bon dans ce qu'il fait, peut-être, ou en tout cas passable, mais qui a une tchatche de zinzin, qui va toujours aux soirées, qui rencontre les gens, qui sait leur parler et tout, il aura forcément beaucoup plus d'opportunités qu'un monstre dans son domaine, mais qui sait pas parler aux gens, quoi. Tu vois, il y a un truc injuste un peu comme ça dans la pratique.
Mais tu vois, il y avait aussi un... On le trouve sur YouTube, là, c'était le premier documentaire qu'avait fait Antoine de Maximi. Il l'avait fait sur un article qui s'appelle Chomo, qui est maintenant décédé. Mais lui, ce mec-là, lui, il était habité par ses créations artistiques. Hein. Mais il le revendiquait, il refusait que ces trucs étaient mis sur le marché de l'art. Il voulait pas que ça rentre dans le marché capitaliste, quoi. Et du coup, lui, pour lui, c'était une revendication, mais il était habité. Le mec en faisait tous les jours, hein, mais il exposait pas ni rien parce que lui, il refusait de rentrer dans ce truc-là, quoi.
Ouais, j'en ai un dans la tête, là, un peu similaire, peut-être un peu moins extrême quand même, mais qui doit avoir pas loin de 55 ans, je pense. Et là, il commence un petit peu à faire quelques galeries et tout, mais parce qu'en fait, il a passé toute sa life à dire non, mais moi, en fait, j'ai envie de faire cet art-là. Et il n'a pas essayé de se tordre ou de... Il avait ses convictions à lui, ses trucs, donc il a voulu faire ce truc-là, quitte à pas vendre. Mais du coup, c'est beaucoup de sacrifices, parce qu'il a vécu un peu chichement toute sa vie. Et quand je dis ça, en soi, si on est solo, ça se tient, mais ça veut dire que dès qu'on est en relation, par exemple, il faut que l'autre soit adapté à ce style de vie, faire des enfants, si on en a envie, du coup, ça veut dire avoir un style de vie un peu chiche, c'est un autre bail aussi. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de sacrifices quand même dans cette société dans laquelle on vit pour rester fidèle à ses convictions dans ce genre de milieu. Donc, respect à eux, en vrai. C'est un truc de fou, mais c'est dur. Je trouve ça très très dur.
Ah, mais c'est... Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, quand on a préparé cet épisode, tu nous expliquais que dans ton travail personnel, t'avais...
Pour la transition.
Peut-être qu'elle est foirée, hein. Mais t'avais mis du temps, justement, à mettre tes propres opinions, des avis plus tranchés dans ton travail, tout simplement à véhiculer tes convictions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et comment tu t'es mis petit à petit à véhiculer plus tes idées ?
Bah, je pense que j'ai mis du temps à avoir une conscience politique un peu développée. En fait, moi, je suis expert en rien du tout, tu vois. Genre, c'est juste que dans l'idée, moi, j'aime bien les gens. j'aime bien qu'ils soient tout le temps, qu'ils soient contents. Donc, effectivement, je suis plus à gauche, évidemment. Mais à l'époque, je me suis dit, déjà, il a fallu que je me construise un peu moi. J'ai un peu une enfance un peu particulière et tout. Donc, déjà, beaucoup d'années pour, me poser un peu et être un peu moins dans tous les sens et après commencer à m'intéresser un peu plus au monde extérieur et à ce qui se passe donc j'ai mis un petit peu de temps à vraiment être sûr de ce que j'avais et surtout en fait avoir une dans ma tête m'avoir une auto-légitimité un peu de me dire là je peux dire un truc, j'ai pas l'impression de dire une connerie, ça va, tu vois, Et après, mélanger un peu au début, bêtement, d'avoir une peur un peu d'être clivant. Je me suis dit, quand t'es un peu jeune, tu te dis, plus t'es neutre, plus tu plais au plus grand nombre. Et en fait, en vieillissant, je me rends compte, au-delà des convictions, même stratégiquement parlant, hein, c'est ça qui est compliqué aussi, je trouve, dans ce truc-là. Mmh. Moi, j'avais aussi peur un peu de faire de la récupération, c'est-à-dire que de faire genre, je suis un étendard de tel truc. C'est en vrai, je le poste sur Instagram pour avoir des likes aussi. Tu vois, il y a un truc un peu de, c'est pas vraiment ça que je dis, mais c'est vraiment ça que je fais. Mais il y a un peu ce côté-là aussi. Tu le postes aussi pour avoir des réactions, des trucs. Donc, est-ce que tu récupères pas un peu le combat pour aussi faire ta propre soupe à un moment? C'est une question que je me pose un peu. Mais en fait aussi en vieillissant, voilà, le côté, je me rends compte que les gens se voient en toi, mais les gens te suivent plus facilement, adhèrent plus à ce que ta pratique ou ce que tu fais. En fait, quand ils voient un peu un caractère de qui tu es, tu vois. Et je trouve qu'en restant neutre, alors restant neutre, il y a 10 ans on parle, hein, parce que rester neutre aujourd'hui, bon, c'est la neutralité quand même un positionnement, je dirais. En restant neutre, au final, t'as pas de saveur un peu, tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme ça que je le vis en tout cas, tu vois. Moi, il y a plein d'artistes, typiquement, si l'artiste d'un coup il balance des dingueries, machin, j'arrête de le suivre. Alors que si l'artiste, en plus de ça, il a des valeurs un peu qui me correspondent et tout, même s'ils sont des singes, je trouve, il y a des gens que je trouve meilleurs, je vais quand même avoir un affect pour cette personne-là, tu vois, un petit peu. Donc au-delà, et puis en plus voilà, bon, comme on disait, il y a ce questionnement de la récupération un petit peu, mais dans tous les cas, c'est une manière aussi de tu vois, je trouve qu'il y a un ras-le-bol un peu, et puis peut-être en vieillissant, les trucs qui me touchent plus et tout, et en fait c'est aussi une manière de se défouler et de partager un peu le message, ou d'essayer de dire des choses dans ce sens-là un petit peu, quoi. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai un peu plusieurs trucs. Je vais avoir une partie très cache pistache avec 2-3 petits strips, un paquet de céréales avec Macron, enfin des trucs un peu pas très subtils, quoi. Et je vais essayer à d'autres côtés d'aller dans une pratique plus perso, à des moments à juste mettre des ambiances, des messages un peu de figuratif, mais sans mettre des slogans politiques directs. Il y a un peu plusieurs façons de le faire, je dirais.
Mais justement, enfin, toi, c'est un peu la question suivante aussi, c'est est-ce que justement la légitimité d'un artiste, c'est pas de véhiculer des messages? Et parce qu'on a tendance souvent à considérer l'artiste comme étant quelqu'un qui produit quelque chose, alors qu'on va considérer comme beau. Est-ce que le rôle de l'artiste aussi, c'est pas à travers sa production véhiculer certains messages et véhiculer ses réflexions et ses pensées?
Ouais, ça c'est une vaste question. Après, je sais pas trop, parce que ça reviendrait à dire un peu que l'art doit être militant d'une certaine manière, que ça nous plaise ou pas. Hein, dans le militantisme, ça peut être du militant d'extrême droite. Hein. Bon, on n'est pas d'accord, mais dans l'idée, ça reste du militantisme dans la définition pure, ou de militantisme de gros capitaliste, ou j'en sais rien. Ça peut exister, mais ça viendrait à dire que l'art doit être militant. Je sais pas trop. C'est dur hein, dire un peu ça veut dire quoi du coup des gens qui sont uniquement techniques, tu vois. Je repensais l'autre fois j'ai revu un truc sur les artistes qui dessinaient l'animé Akira. Il y a des trucs où ils font des cellulos et tout à l'ancienne. Je veux dire, il y a une peinture de 15 heures pour une seconde d'animation. Et tu te dis, du coup, est-ce que c'est des artistes ou pas, ces gens-là? Parce que finalement, ils passent pas de message, ils sont là que...
Ou est-ce que c'est peut-être plus artisan, tu vois?
Je sais pas trop. J'avais réfléchi à un artiste versus artiste avec un artiste en minuscule et un artiste avec un A majuscule. Je sais pas trop. Et d'un autre côté, c'est... Ouais. Vas-y.
Non, parce que moi, quand j'étais en études, là, quand je faisais mes études de graphisme, là, il y avait une définition de l'art qui m'avait parlé. C'était un prof qui avait donné cette définition, qui disait que c'était... Enfin, l'art, en fait, c'était une œuvre de l'esprit. Et tu vois, en fait, derrière ce truc-là d'œuvre de l'esprit, en fait, tu peux mettre plein de trucs différents. Effectivement, ça peut être politique ou autre. Mais est-ce que quelqu'un qui est plus technique... Après, c'est pas mal, hein, au final. Est-ce que c'est peut-être plus artisan que moi, artiste? Après, ouais, c'est...
Quand tu dis cette phrase de ce prof-là, tu vois, ça me fait plus penser à... l'art, c'est l'œuvre de l'esprit, il a dit, c'est ça? Non, c'est quoi qu'il a dit exactement?
En fait, l'art, en fait, c'est une œuvre de l'esprit. C'est quelque chose qui vient de l'esprit, en fait, ouais.
pour moi, ça me fait penser un peu. C'est un peu difficile en même temps de s'appeler soi-même artiste, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça vient que des autres. Quand il dit ça, pour moi, c'est un peu, c'est un peu la validation des gens ou même mais n'importe qui, et pas forcément des gens concernés, pas des galeristes ou quoi, même du lambda, de toi et moi, de n'importe qui. Je pense que c'est eux un peu qui font de toi un artiste ou pas, tu vois. Parce que chacun a une sensibilité un peu différente. On a un peu ce genre de métier-là où c'est tellement subjectif. Déjà, comme tu dis, il y a le beau. Est-ce que le beau, déjà, il est différent pour tout le monde. Tu vois, on peut penser à l'esthétisme, mais aussi on peut penser à ce que ça fait produire chez les gens comme émotion. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu bizarres. Je sais pas trop.
Vas-y.
Bon, je disais, moi, avant, je me forçais, enfin, je me limitais à dire que j'étais dessinateur illustrateur, tu vois, en vieillissant. Maintenant, je m'en fous un peu. Des fois, je vais dire ça, des fois, je vais dire je suis artiste, mais je mets pas de piédestal à ce mot-là, tu vois. Je mets ça vraiment comme tu parles d'artisanat un peu, tu vois, alors que c'est pas forcément tout le temps ce que je propose d'artisanat, j'en fais un peu dans ce sens-là. Tu vois, pour moi, c'est pas si important que ça, en fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont pas artistes et qui disent des trucs, tu vois, aujourd'hui, qui militent sur des choses, tu vois, aussi, je sais pas trop.
Moi, après, c'est que je suis beaucoup influencé par tout le mouvement qui est l'art conceptuel, où eux, ils disent que, en fait, le concept prévaut sur la réalisation plastique. Et donc, en fait, ils disent clairement que, pour eux, l'artiste, c'est celui qui donne l'idée du concept et qui véhicule le message. Et toi, t'as même des artistes dans la branche conceptuelle qui, eux, en fait, écrivaient juste une notice et t'avais d'autres gens qui la reproduisaient. Mais du coup, l'artiste était considéré comme artiste celui qui écrivait la notice. Et toi, l'autre fois, j'avais vu pareil un reportage où c'était une nana qui faisait des grosses statues, mais peut-être, c'est de 20 mètres de haut, tu vois, enfin, des trucs énormes, en fer. Et elle faisait les plans, elle dessinait le truc pour exprimer ce qu'elle voulait exprimer. Bon, c'était un atelier, c'était des soudeurs qui faisaient. Mais les soudeurs, ils se considéraient pas comme l'artiste. Eux, pour eux, c'était les artisans qui réalisaient la production plastique de l'artiste.
De la même manière que je suis avec Akira, l'artiste, c'est Otomo et l'équipe technique derrière.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, artisan et artiste, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Et tu vois, je prends souvent l'exemple pour illustrer mon propos de quelqu'un qui fait de la ferronnerie. Tu peux imaginer qu'il va faire un portail, il va faire un portail où il va exprimer un truc dans ce qu'il met dans le portail, dans les ornements qu'il met. Donc là, c'est son travail d'artiste. Par contre, il peut aussi se transformer en artisan quand il va répondre à la commande d'un client qui veut tel ou tel truc dans son portail.
Mmh, c'est vrai.
Pour moi, les deux. En fait, pour moi, ça joue là, quoi. L'artiste, c'est celui qui exprime. Et l'artisan, il exprime pas, mais il peut faire des trucs exceptionnels parce que il va réussir à rendre vivant un truc, quoi.
Ouais, simplement. Parce que c'est vrai que pour moi les deux vont quand même enfin je suis assez d'accord avec ce que tu dis et les deux sont assez indissociables en vrai, en tout cas dans les pratiques.
Ah ben oui, tout à fait.
Tu vois, parce qu'il y a quand même un rapport à l'argent aussi, sans dire que c'est pas forcément vouloir de l'argent, mais c'est qu'il en faut pour vivre aujourd'hui, c'est comme ça.
Ah oui, mais tout à fait.
Donc il y a un rapport à l'argent, donc il y a un moment où l'artisanat peut-être dans ce métier-là, et c'est pas du tout pour dénigrer les artisans de France, c'est aussi de la passion et plein de choses, hein. Mais dans ce côté-là un peu artisanat, ça va vraiment avoir un rapport plus commande, comme tu dis, ou besoin d'un client, ou ce qu'on pense en tout cas être un besoin des gens, là où le côté artiste, il va être plus une proposition, un truc qui nous vient de nous, vraiment purement sans aucune contrainte, aucune barrière, à part de nous-mêmes, quoi. Il n'y a pas un client derrière qui va te commander quelque chose, qui va te demander des retouches, c'est vraiment ta proposition à toi. Peut-être que c'est ça, effectivement, ouais, un côté pour vivre et un côté pour penser, peut-être.
Ouais, mais tu vois, c'est comme.
Mais dans plein de métiers.
Ouais, dans plein de métiers.
Si tu prends la cuisine, même nous, avec la sérigraphie, où on fait nos propres trucs et puis des fois on répond à des commandes, mais en fait, ça c'est viable dans plein de trucs. Après, c'est vrai que c'est de la sémantique, tout ça, au final.
Ouais, mais c'est vrai que. Mais tu vois, moi, c'est comme aussi, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans un orchestre, tu sais, philharmonique, les musiciens, ils composent pas. Ils vont reproduire une. Ben moi, j'ai du mal à les considérer comme artiste. Pour moi, c'est des artisans d'art, mais leur travail n'en reste pas moins exceptionnel. Mais le fait qu'ils ne composent pas. Par contre, si chez eux, ils composent de la musique,
pour moi, là, ils sont dans un travail d'artiste.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est
mais l'un n'empêche pas l'autre. En fait, tu peux très bien être artiste à un moment, être artisan à un autre moment. Enfin, tu peux.
Même de manière un peu plus basique, est-ce que, par exemple, tu vois, ça me fait penser à du Rihanna ou des choses comme ça, où t'apprends qu'en fait, au final, ils ne font que chanter les chansons, ils ne les écrivent pas.
Ouais, c'est des. Si c'est pas leur expression, ouais, pour moi, c'est des artisans de la musique.
Bah, c'est ça, tu vois. Donc, ça pose le même genre de questions, effectivement. Après, ouais, là, je suis en train, du coup, de réfléchir comme un abruti, où je me dis, ouais, mais peut-être qu'il y en a des meilleurs que d'autres, et peut-être parce que du coup, je me dis que c'est peut-être. Mais en fait, j'allais dire un gros mot, mais on est sur un podcast familial ici. je suis un abruti de me dire, tu vois, genre, c'est peut-être moins dur d'être Rihanna que d'être un saxophoniste philharmonique de Paris, tu vois. Et en fait, pas du tout, ça se trouve, tu vois, genre, c'est autant de travail l'un que l'autre.
Ouais,
tu vois,
peut-être, donc, ouais, peut-être. Hein.
Donc en vrai, ouais, c'est peut-être, enfin, du coup, ça viendrait pas de toi, c'est peut-être plus ce rapport à ce que tu fais de ta création ou comment tu l'as créé, du coup. Est-ce que tu l'as créé dans le but de subvenir aux besoins de quelqu'un? Est-ce que tu l'as créé dans le but de vouloir transmettre un message? Je sais pas trop.
Bah moi, j'arrive pas à dissocier, enfin, l'art de l'expression d'un message, quoi. Pour moi, dans l'art, il y a l'expression de quelque chose. Et s'il n'y a pas expression, il n'y a pas d'art.
Bah c'est ça, c'est un peu comment on définit le mot artiste, parce que tu vois, ça me fait penser à parce que j'ai reçu je le dis aux gens, tout ça est spontané, mais il y avait quand même une réflexion, j'ai reçu un peu les questions qui m'avaient donné avant. du coup, non, mais ça m'a fait réfléchir à plein de trucs, du coup, que je m'étais pas posé de questions, et c'est vrai qu'il y a ce rapport, tu l'as dit un peu tout à l'heure, il y a ce rapport, finalement, comment dire, travail alimentaire et travail perso. Et en fait, enfin, moi, personnellement, je me rends compte que j'ai réussi à mixer les deux dans un domaine similaire que je kiffe. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, il y a des commandes de clients que j'aurais pas fait de moi-même si le client n'était pas venu me voir, mais ça reste dans mon domaine de prédilection qu'est le dessin. C'est pas un job qui n'a rien à voir. Je pense que ceux qui arrivent un peu à faire ça, ils ont un peu la chance d'avoir un job alimentaire et un job de kiff. Mais le kiff, on n'en vit pas beaucoup, en tout cas pas à mon niveau. Du coup, il y a l'alimentaire, mais dans les deux cas, ça reste du dessin. Donc c'est trop bien. C'est un peu la réussite que je me donne sur ce truc-là, parce que du coup, j'ai pas besoin d'aller faire un job qui n'a rien à voir avec le dessin à côté. C'est cohérent dans tout ce que je fais, quoi. Ça, c'est cool.
Mais tu sens que ça te contraint des fois d'être. Enfin, je sais pas, peut-être que tu donnes plus de place au travail de commande parce que c'est ce qui te fait gagner de l'argent. Est-ce que du coup, tu sens que ça te contraint? T'aimerais avoir plus de temps pour. Est-ce que des fois, tu subis un peu cette pression financière où il faut rentabiliser son travail, quoi.
Ah ouais, moi j'ai une chance pour le coup, là c'est un truc, je me rends compte que c'est un peu un ticket d'or pour plein d'artistes. Je bosse avec une agence à l'année, donc en fait j'ai un salaire par mois, en fait je suis pas embauché mais en freelance toujours, mais en gros tous les mois ils me donnent on a convenu d'une durée tous les mois, et en fait je vois sur l'année entière, du coup c'est pas des trucs ponctuels, donc j'ai ça qui est en garantie tous les mois, donc ça m'enlève une espèce de pression de dingue.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est clair.
C'est assez barjot, mais du coup c'est vrai que bon, du coup la pression financière, je sais que j'ai cet équilibre là qui me fait respirer. Le mois prochain je sais ce que j'ai, le mois d'après je sais ce que j'ai au minimum, en tout cas. Du coup la pression elle se fait plus en termes de temps. C'est vrai que ça peut être très chronophage, et du coup ben mettons là dans mon collectif on a des événements qui vont arriver où on se bouge le cul pour on se bouge pour essayer de dynamiser le travail collectif et tout ça, mais du coup c'est forcément une charge de travail supplémentaire, et ben des fois c'est un peu frustrant, ou enfin au-delà des frustrants, moi je ne suis pas frustré parce que du coup j'arrive de bosser comme un taré. Il y a des semaines où effectivement c'est du 10h à 23h minuit avec un enfant machin là, ça fait des sacrées semaines, donc il y a une frustration un peu de se dire là c'est cool d'en vivre avec ce truc là d'art, on revient sur l'artisanat, c'est plus simple à imager. Mais en fait là j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire un truc plutôt artiste là. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Alors quand les projets un peu artistes du coup sont un peu moins concrets, du coup tu les places un peu quand tu veux, donc ça va, ça s'équilibre bien. Mais quand tu développes des choses à côté qui ont des dates ou des choses comme ça, bah des fois tout peut se mélanger et c'est un peu frustrant en termes de temps. Mais bon, c'est comme ça que j'ai toujours fait, donc j'allais dire c'est un peu comme ça que ça marche, mais
de toute façon c'est dur de vivre que du côté artistique aussi, et puis
oui,
après tu peux le voir aussi où au final le travail plus de commandes peut aussi nourrir la partie artistique aussi, peut-être dans certains cas, quoi.
Bah, et puis, il y a vraiment... Je l'ai vraiment découvert de plus en plus avec notre magnifique podcast concurrent qui s'appelle Photoshop. Non, non, où du coup, on a reçu pas mal d'invités. Et en fait, on se rend compte que même nous-mêmes, en pratiquant ce truc-là, on est biaisé par l'image un peu instagrammable des artistes. On a toujours l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons un peu ce qu'on vit. Et en fait, la plupart des artistes, même ceux qu'on croit qui sont en place de fou, une grande majorité ont un job alimentaire. Alors souvent, ça va être prof quelques heures par-ci ou machin quelques heures par-là. Mmh. Mais très peu, en vérité, sont les artistes qui vivent de leur pratique pure, du côté artiste pur, au final, même ceux dont on pense que c'est le cas, c'est assez marrant. Et c'est pas grave, mais je trouve que ça devrait beaucoup plus... ça se partage, parce qu'en fait, ça apaise beaucoup plus les gens de se dire « Ah bah, je suis pas tout seul, être dans ma galère, nanana... » si ça se normait un peu, quoi.
Ouais, mais ça me fait penser un peu, nous, dans ce qu'on écoute en termes de musique, c'est dans tout ce qui est metalcore, hardcore, etc., où t'as des groupes, tu sais, quand tu le vois comme ça, tu dis « Ah putain, ça fait vachement pro et tout », et tu sais, qu'ils font des tournées, j'en sais rien, moi, en Europe ou dans d'autres continents, etc., tu dis « Bah putain, c'est quand même un gros truc, tu vois ». Et en fait, quand tu regardes tout, tu dis, bah, en fait, t'as des mecs dedans, pour de vrai, ils font pas que ça, en fait, ils ont un boulot aussi à côté, et puis...
Et c'est ça, on est biaisé. Alors là, on pourrait entrer dans un truc sémantique de l'image aujourd'hui, c'est quoi ce qu'on veut donner aux gens et tout, mais c'est vrai que c'est fou, quoi. On est nous-mêmes, alors que même des gens qui connaissent un peu comment ça marche, le milieu, ils peuvent être surpris des fois, c'est quand même fou. Comme vous êtes en rapport avec beaucoup de gens de ce milieu-là, et là, vous me dites que vous avez découvert ce truc-là par hasard, vous le saviez pas dès le début. Enfin, toi, il y a un truc un peu... même ceux qui sont concernés, ils se font avoir des fois un peu, tu vois.
On s'en doutait pour quelques groupes, parce que, enfin, on connaissait quelques groupes, donc on savait qu'il y en avait quelques-uns où ils travaillaient, mais en fait, il y en avait beaucoup plus qu'on l'imaginait, quoi.
Mais de la même manière, par exemple, tu vas avoir des gens qui vont être très heureux de faire que de la... Là, c'est peut-être moins musique, plus de mon côté, mais qui vont être très heureux de faire que de l'artisanat, entre guillemets. Tu vois, il va y avoir un truc...
Ah oui, tout à fait, ouais.
Et des gens, ils sont embauchés dans des boîtes de com, ils font que des réponses à des demandes de clients et tout, et c'est ok de ouf, tu vois. Ils ont pas forcément une envie à côté de s'ajouter de la proposition perso et tout.
Ouais, et puis toi, t'avais aussi, on avait reçu, alors je crois que c'était vers le début du podcast, c'est Vincent Pedermontini. Mmh. Lui qui est chanteur, enfin d'un groupe là, de hardcore à Paris qui s'appelle The Butcher Rodeo. Et qui était aussi l'ancien chanteur d'Acme, là, qui est un peu plus connu dans le métal. Là.
Même moi, je l'ai su, là, tu vois, que je suis pas...
Ouais, et en fait, il nous disait qu'à un moment donné, il aurait pu vivre que de la musique. Et lui, en fait, il travaille à côté, il travaille... Bah, après, c'est pas caché, il l'avait dit, il travaille à la RATP, lui.
Ouais.
En fait, lui...
Modèle DJ Van Pass.
Il avait quand même fait le choix, en fait, de quand même garder son boulot à côté et puis de faire la musique, bah, enfin, de la musique à côté. Parce que, justement, pour pas se foutre de pression financière sur sa passion, quoi. Et comme ça, il dit, au moins, j'ai un temps pour le boulot, j'ai un temps pour la musique. Les deux se mélangent pas. Et quand je fais un truc, je suis pleinement dedans, et puis au moins j'ai pas de pression, et puis je fais les trucs qui me font plaisir, quoi.
Bah ouais, parce que je comprends de ouf, c'est extrêmement complexe, tu vois, ça revient un peu même, vous connaissez un peu ces sujets-là de santé mentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux aussi, et ça on le sait pas très bien en se lançant, mais la freelance, ça peut être beaucoup d'insécurité, vivre de sa passion, ça peut être beaucoup d'insécurité, ça veut dire être prêt à se dire, bah ça se trouve là, pendant 3 mois je mange des pâtes, ça se trouve dans 6 mois il faut que j'arrête et que je fasse autre chose, et que je reprenne dans 9 mois, enfin il y a un truc un peu bizarre, alors du coup c'est pas déconnant que quelqu'un veuille pas vivre ça mentalement, tu vois, et garde son job à côté. Et en plus, potentiellement, il est peut-être moins pied et poing lié, du coup, à dire oui à des projets dont il se branle un peu, parce qu'il a son job à côté qui lui assure une sécurité et mentale et financière. Tu vois, c'est pas déconnant du tout. T'es plus libre, finalement. Tu vois, en étant enchaîné, t'es plus libre, presque. Il y a un peu un truc comme ça.
Ouais, ouais. Après, c'est ce qu'on disait, bah, qu'on était invité sur Photoshop l'autre fois. C'est quand on racontait un peu, nous, comment on fonctionnait, où on travaille à côté et puis on fait nos projets. Après, oui, nous, ce qu'on aimerait, idéalement, c'est qu'en fait, la société soit pas que sur le travail rémunéré, qu'il y a plus de temps, en fait, pour faire les choses. Mais la société, aujourd'hui, est structurée de telle façon que ce qui prime, c'est... la croissance et puis le productivisme et le travail qui rapporte de l'argent, quoi, malheureusement. Mais c'est dommage, quoi, parce que bah, toi, en fait, comme toi, ou peut-être que t'aimerais avoir plus de temps pour tes travails perso, parce que bah, quand on a préparé cet épisode-là, finalement, tu nous disais un peu ce que tu véhiculais comme message et t'aimerais peut-être avoir un peu plus de temps pour... pour raconter tout ça, quoi.
Ouais, c'est très aléatoire. Il y a des fois où j'ai, bah, tu sais, c'est, du coup, c'est peut-être qu'avec ce confort-là, je mets moins de pression sur ma pratique. On dit toujours des termes artistiques plutôt qu'artisanal, parce que du coup, bah, j'ai aussi, c'est peut-être ce petit flow un peu de me dire, je suis pas de pression, donc en fait là, je suis chaud, j'ai envie de faire. Là, je suis pas chaud, j'ai pas envie de faire. Je fais autre chose. Au-delà de la temporalité de ce qu'on m'impose, j'ai aussi la mienne que je me mets, qui est un peu un flow, un peu de tranquillité. Je sais pas trop. Là, je trouve que j'ai une équipe qui me va pas trop mal, en vrai. Mais effectivement, parce que tout est blindé. Tous les créneaux horaires sont blindés, donc je me passe pas trop la question. Si effectivement j'avais du temps libre, est-ce que je le consacrerais à faire plus de pratiques perso ou pas? Ou est-ce que je me mettrais en caleçon devant un jeu vidéo et on en parle plus? Je sais pas trop.
Mais tu vois, quand on parle justement d'un peu de structure de société, on se rend compte que... ou nous on voudrait que ça change, comme on disait justement, pour avoir plus de temps pour faire nos trucs perso et mais en fait on se rend compte aussi que bah tu vois, par exemple, la période du Covid, ça avait été possible parce qu'on a on a mis en pause, on va dire, l'activité économique parce que il y avait la pandémie, et on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, les nécessités de le faire pour la crise environnementale, pour la santé mentale des gens, ou tout simplement pour avoir plus de temps pour soi, en fait, pour l'instant, c'est des combats qui ne dépassent pas la nécessité de faire de l'argent, quoi.
Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a une base de bête et méchant, de si c'est pas immédiat, c'est pas important. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça.
Ouais, c'est ça.
Je le vois un peu de, tu vois, le Covid, c'était maintenant tout de suite, donc il fallait réagir maintenant tout de suite. Effectivement, comme tu dis, on voit qu'on pouvait prendre quand même des mesures drastiques. Mais comme c'est un peu, tu sais, c'est un peu brumeux, hein, pour les gens, le climat, tout, tu sais, ils disent, ouais, on va prendre 2 degrés, ça va, tu vois, enfin, tu sais, il y a un truc un peu.
C'est clair.
Donc, et puis, malgré tout, nos dirigeants, c'est le vieux monde, il y a aussi, sans être complotiste, hein, il y a aussi, il y a un biais financier de grosses entreprises dans les trucs. T'inquiète que si demain ils trouvent comment capitaliser sur un moteur à eau, on va tous passer au moteur à eau, hein. Mais en fait, là, il y a pas pour l'instant, et l'argent est dans le pétrole, donc il n'y a pas moyen de changer, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Les solutions qu'ils amènent, elles sont avant tout économiques pour faire du bénéfice, tu vois. Et les trucs, là, je sais pas, ça me parle de pétrole, donc j'ai la voiture électrique en tête, tu vois. Je sais pas, c'est pas viable, la voiture électrique, de vouloir la vendre de manière à ce que tout le monde ait une voiture électrique. C'est pas possible de remplir.
Oui, de la produire comme là, ce qui est fait avec la voiture thermique, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est pas une solution, quoi.
C'est ça, c'est pas une solution. Là, je sais pas, tout ce qui me vient un peu en tête, là. Et tu vas avoir des. Maintenant, même, clairement, ils ont ça, mais à Paris, ça fait longtemps, à Lyon aussi, des critères pour rentrer dans la ville.
Ah, nous aussi, ouais.
Le problème, c'est que, frère, en général, si le mec, il a pas un critère qui rentre dans le machin, c'est qu'il a pas forcément les moyens de s'acheter une voiture neuve, en fait. C'est quoi ce bail, à part, et pas proposer d'autres solutions, j'en sais rien, à part juste proposer de racheter des bagnoles, c'est pas possible. Enfin, c'est... ouais, effectivement, il y a c'est... On va dans le mur un peu, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, et puis t'as un peu... en fait, le système capitaliste est tellement ancré maintenant dans une société que... En fait, t'as même l'impression, des fois, en discutant avec certaines personnes, qu'elles voient pas autre chose que ce système-là. Alors qu'en fait, le capitalisme, pour de vrai, ok, ça existe depuis un certain temps, mais ça a pas toujours existé. Pour de vrai, il y a d'autres façons de faire les choses. Mais c'est vrai que maintenant, ça a tellement marqué cette société actuelle-là que t'as l'impression que t'es un peu enfermé dans ce truc-là, quoi.
Bah, c'est complexe, là. Je suis pas du tout un expert non plus, mais ce qui me vient un peu dans mon feeling, désolé si je dis des bêtises, mais... Moi, j'ai l'impression déjà que oui, c'est le modèle qu'on nous impose depuis tellement longtemps, comme si c'était le seul et unique. Mais bon, même si on réfléchit, il y a un truc où les gens, ils ont réussi à faire en sorte que les gens soient tellement dos au mur un peu maintenant. J'ai l'impression que, tu vois, prendre 2 jours de grève, c'est compliqué dans une société où les gens ont pas de quoi manger tous les jours forcément. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont tellement enchaîné un peu les gens qu'ils n'ont pas le temps de se poser pour y croire un peu. Tu vois, il faudrait que tout soit fait du jour au lendemain. Il y a un truc un peu comme ça. Et en même temps, ils ont amené les gens à un niveau de consommation que forcément changer le modèle, pour moi, ça voudrait dire se restreindre sur des choses qu'on prend pour acquises mais qui sont destructrices. Et moi, le premier, hein, je consomme beaucoup d'écran, je consomme donc pas mal d'énergie et tout, tu vois. Enfin, il faudrait repenser les choses, mais ça voudrait dire frustrer un peu tout le monde, à accepter cette frustration. Et j'ai l'impression que la globalité des gens, même ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord sur le principe, mais qu'ils auraient un peu du mal à passer le cap, quoi. Et je parle peut-être pour moi aussi, hein, j'en sais rien. Si tu m'enlèves mes écrans, est-ce que je vais être heureux dans la vie? Je ne sais pas. Mais tu vois, il y a un truc un peu, c'est tout est en berlificoté d'une manière où c'est compliqué de passer à autre chose. Parce qu'il y a plein, effectivement, même ce que vous parliez à un moment en réel, on avait reparlé ensemble, je ne sais plus comment il s'appelle une fois de plus pour la sixième fois.
Bertrand Russell.
Voilà, ce modèle-là, il est hyper intéressant. Je vous laisserai mieux l'expliquer que moi parce que je vais dire des bêtises. Mais vraiment, voilà, ça peut être hyper intéressant, ça a du sens et tout, mais je sais pas. Je sais pas ce que les gens ils ont en tête.
Ouais, et puis tu sais, il y a des gens aussi, quand tu leur exposes ce que dit Bertrand Russell, on l'a expliqué plein de fois à travers d'autres podcasts, mais du coup, quand tu leur dis, vous allez avoir avec ce système-là, vous pourrez avoir du temps pour faire des choses, quoi. T'en as plein qui disent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce qu'en fait, leur vie est essentialisée autour du boulot, quoi.
Ils ont tristement pas l'imagination, quoi. C'est un peu dommage.
Ils ont pas l'imagination parce que soit aussi on leur laisse pas le temps de l'avoir. Parce que tu vois, il y en a, ils rentrent du boulot, ils sont crevés, donc enfin, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Mais toi, on voit que les questions écologiques te touchent un peu à travers aussi ce que tu fais comme travail personnel. Dans tes productions, ça te traverse vraiment ces questions-là? Tu te questionnes beaucoup ou ça...
Après, ouais, moi je... Alors même c'est un peu plus global quand même, c'est l'écologique, social, on parlait du capitalisme et tout, c'est un peu un mélange. Moi, comme je disais un peu plus tôt, là, je suis vraiment pas un expert en quoi que ce soit, mais je pense que je suis juste un peu, j'écoute un peu et je vois un peu ce qui se passe et ce qu'on me présente, et c'est une dinguerie. Mon frère, par exemple, qui fait partie en Creuse, là, il a lancé une espèce de mouvement associatif écologique, et du coup, il est très attentif à ce qui se passe rien qu'en Creuse. C'est une dinguerie. Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte. Il y a des trucs qu'on voit mainstream des médias. Là, on a un peu parlé de la 69, les choses comme ça, un peu. En fait, dans chaque région, là, en Bourgogne, j'ai de la famille en Bourgogne, leur bled est apparu, alors que c'est un bled où j'ai que ma famille là-dedans, il y a 70 habitants, enfin, c'est n'importe quoi. Le bled est apparu sur la carte de France des aberrations écologiques parce qu'ils ont mis 3 énormes méthaniseurs, pour satisfaire 5% des pélos. Du coup, ils embaument 12 villages aux alentours. Enfin, c'est une dinguerie. Ça, dans un petit bled de Bourgogne, en Creuse, ils font des déforestations et des coupes rases de partout. Ils font que ils replantent derrière, soi-disant, ils font du greenwashing aussi. Ils replantent que des monocultures, enfin, du coup, que des dingueries écologiques pour de la surproduction, pour toujours, tu vois. Et en fait, on voit partout. Et je me dis que sans être un expert en rien, ça va trop loin. Et je trouve qu'on est, alors peut-être que c'est un peu le syndrome minuit à Paris, ou genre c'était mieux avant, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on vit une époque là où tous les problèmes, ils arrivent tous à leur paroxysme un peu. Tu vois, genre l'écologie, ça existe depuis longtemps, le réchauffement, hein, mais là, ça commence à devenir vraiment vénère. Le côté social, là, on est dans un côté où ça commence à devenir un peu vénère aussi, la montée de l'extrême droite un peu de partout. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tous les pôles, un peu, ils sont en train de prendre beaucoup d'importance. Là où peut-être à une époque, il y avait plus un pic d'un truc et le reste était un peu latent, tu vois, je sais pas trop, peut-être que je dis des grosses bêtises.
Non, mais t'as raison, parce que nous, pareil, en fait, à travers ce qu'on fait, nous on n'est pas des experts, mais c'est qu'on essaie de s'interroger, et puis un peu comme toi en fait, de regarder et puis de voir un petit peu, et puis après d'expliquer un peu les choses. Mais c'est intéressant là, quand tu dis que t'as ces pôles là qui sont un peu à leur paroxysme entre l'écologie, le social et l'économie. Mais est-ce qu'en réalité, nous, ce qu'on en a compris, notamment quand on regarde des choses qu'écrivent Timothée Parry par exemple, là, tu sais, qui parle de la décroissance, en fait, les trois sont liés. Et effectivement, en fait, tu vois, par exemple, tu parlais de l'extrême droite avec l'écologie. On sait que plus il y a des régimes d'extrême droite qui sont en place, moins il y a de choses qui sont faites au niveau de l'écologie, par exemple.
Et inversement, il y avait un chercheur qui avait même montré que plus la crise écologique s'intensifie, plus il y aura des élus d'extrême droite qui vont arriver.
Et c'est pour ça que cette question-là, maintenant, elle est encore plus complexe. On prend l'écologie, pour de vrai, ça pourra pas se régler qu'en traitant la partie écologie, ça pourra se régler qu'en en traitant en même temps la partie écologie, la partie sociale et la partie économie. Et si tu prends, admettons, tu dis je réglais que la partie économie, la chose capitaliste, mais en fait ça va avoir un impact sur la partie sociale, la partie écologie, donc en fait c'est pour ça que les trois à chaque fois sont liés. Mais c'est pour ça qu'on a vu effectivement, mais je pense que c'est vrai, ce sentiment que les trois arrivent un peu en Bah, à bout de souffle, parce que, en fait, comme les trois sont liés, effectivement, là, aujourd'hui, c'est peut-être le pic où, petit à petit, les trois arrivent au max, quoi.
Bah, c'est ça, il y a un truc, quand même... Enfin, j'ai l'impression qu'on vit une époque... c'est tendax, hein, quand même. Puis encore, nous, on est déjà trentenaires, tu vois. Je me demande ce que c'est pour... Bah là, j'ai un enfant, tu vois, qui est né il n'y a pas très très longtemps. Ça va être quoi, sa vision du... C'est stress, tu vois, parce que du coup, j'ai l'impression que la jeune génération, elle est bien plus touchée encore que nous par l'écologie, par exemple. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Parce que eux, c'est plus du concret déjà presque que nous, que nos parents, que nos grands-parents. Tu vois, il y a un truc, je sais pas. Ça va. C'est un monde de fou.
Ouais, et puis c'est. Tu te demandais, du coup, pour. Toi, c'est un fils que t'as.
Ouais.
Ouais, bah. Il vivra sous une dictature d'extrême droite, et puis. il fera avec, quoi, qu'est-ce que tu veux.
Putain, mon fils Jean Moulin.
Ça sera peut-être même le leader d'un mouvement d'extrême droite.
Hein. Oh là là, bah, j'allais dire, mon fils sera bien ce qu'il veut, mais pas ça. Oh, mais, il y a très peu de chance, il va finir jongleur de bolas enflammées au rire. Ça va se passer, je te le dis, moi. Zadiste. Ouais,
mais,
ouais.
Mais il fera pas de mal au monde.
Espérons, c'est tout ce que je lui souhaite, c'est un minimum. Non, mais attends, faut faire confiance à son éducation. Mais on y pense, hein, en vrai, c'est ça, hein, parce que bon, tu vois bien que les profils qui partent dans, par exemple, l'extrême droite ou quoi, il y a tout, évidemment, mais il y a aussi des gens perdus, des gens qui découvrent que c'est pas viable des années plus tard, enfin, ça, tout est possible. Hein.
Ouais, et puis tu te rends compte que l'extrême droite, enfin, quand tu t'intéresses un peu à ce qu'ils véhiculent, c'est la majorité, en fait, ils véhiculent des choses que énormément de chercheurs débunkent parce qu'en fait, c'est des conneries, quoi. Et puis, mais n'empêche, ils arrivent à capitaliser sur leur discours et à entraîner des gens, quoi. Malgré le fait que,
on n'écoute pas les débunks. En fait, ils jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font une grosse annonce. Et en fait, sur 100 000 personnes touchées, il y en a 20 000 qui vont voir qu'il y a un débunk et que c'est de la merde. Mais il y en aura 80 000 qui vont s'arrêter à la première annonce. Du coup, bah,
oui, c'est
passé, tu vois, c'est un peu le truc.
Et puis surtout, bah ouais, tu te rends compte aussi que les gros médias, l'espace médiatique, appartient à des gens comme toi. Tu prends le plus connu, Vincent Bolloré, qui, clairement, il est de droite, voire extrême droite, quoi. Et puis. Donc forcément...
Ça interroge, hein, parce que là, bah, Bolloré, son poulain principal, ça reste Hanouna. Et les peu de passages que je vois tourner sur les réseaux, je me dis, mais comment c'est possible? C'est d'un cringe. Comment c'est possible que des gens... Alors, il doit y avoir une construction sur des années, hein, mais que les gens, ils regardent ça pendant une heure et demie. Enfin, c'est chaud, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu...
Et ils répètent les discours qui sont dit dedans, quoi.
Bah, c'est ça. Et là, on est quand même... le moment où on enregistre ça, on est quand même dans la période fin du procès de Marine Le Pen, là, avant l'appel. Je veux dire, on est quand même sur un truc où les gens, ils partent en vrille, ils sont prêts à se saigner pour que leur héroïne reste éligible. Alors, quoi, qu'est-ce qu'elle va faire, elle est condamnée pour détournement de fonds publics. Je veux dire, il y a un moment, t'as des convictions. OK, bah, un autre candidat, si tu veux, mais arrête ça. Enfin, je veux dire, tu vas pas... C'est avéré un criminel, il y a un moment...
Mais tu vois, un truc aussi qui est complètement aberrant, enfin, où tu te rends compte que les idées d'extrême droite ou de droite dure sont beaucoup plus véhiculées que des discours de gauche. Bah, tu vois, c'était la semaine dernière, il y a deux semaines, sur l'afterfoot RMC, ils ont invité la députée Caroline Yadan, qui est une députée LREM, mais qui a fait un rapport avec Julien Odoul, qui est RN, pour montrer les problèmes liés à l'islamisme dans le sport.
Let's go.
C'est qu'en même temps, quelques jours avant, il y avait Clément Viktorovitch sur sa chaîne YouTube qui parlait de ce rapport-là et qui montrait clairement que ce rapport n'avait aucune valeur parce qu'il n'y avait aucun sociologue qui était impliqué là-dedans. Il était basé sur aucun fait établi. Et en même temps, en 2022, il y a eu un rapport d'une entité du ministère de l'Intérieur qui montrait justement qu'il n'y avait pas de problème lié à l'islamisme dans le sport.
Oui, mais c'est ça, c'est que des contre... comment on appelle ça ?
Mais ce qu'ils invitent, voilà, c'est le rapport qui accable forcément l'islam et qui accable une partie de l'opinion, quoi.
Alors qu'en même temps, bah, y a aucun fondement en fait, de ce truc-là.
Bien évidemment. Et puis, tu vois, là, quand tu vois là. Après, il y a des gens qui en parlent certainement, qui sont spécialisés dans ce genre de domaine. Hein, mais quand, bah, tu parlais avec Victor Rich et compagnie, justement. Mais c'est vrai que quand tu vois, bah, maintenant, tu regardes un plateau de Pascal Praud, par exemple. Bah, en fait, tu n'as que des gens, ils sont là avec leurs avis aux doigts mouillés. Mais tu fais, mais oh, c'est sérieux, les gars. Moi.
Oui, c'est une discussion de. Mais comme les grandes gueules, tu vois. C'est une discussion de bar PMU, quoi.
Folie. Mais ça se prend pour de la sociologie journalistique, ce que tu veux, mais tu te dis, mais attends, mais c'est quoi tes exemples si tu bases ton truc? Ah, alors j'en sais rien, j'ai pas d'exemple, je regarde pas ces conneries, mais je sais pas moi, là, ce qui me vient en tête, les puces de lit, c'est les immigrés, mais c'est qui, c'est quoi les chiffres, on est où là? Ah non, mais j'ai vu ça avec GG au PMU du coin, bah nickel, et bah allez, let's go, bah c'est ça, bah, c'est parti. Il y a même des gens, comme tu disais, tu vois, qui ont été invités ou qui je sais plus, sur des gens de ces chaînes-là, qui justement ont donné, bah non, mais on a des rapports chiffrés de plein de ministères qui disent que bah c'est pas vrai ce que vous dites, et ils sont là, ah bah c'est votre avis. Bah non, je viens de te dire que c'est des rapports de plein de ministères qui disent que, je veux dire, c'est, on est sur un truc de fou. Et d'un autre côté, tu vois, je me reconnais pas forcément dans ce truc-là. LFI, c'est pas pour les cibler parce que ça reste la gauche, hein, mais je vois sur les réseaux, c'est insupportable aussi. Frère, t'es politicien ou t'es influenceur Twitter? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, ils ont des positionnements où, tu sais, je vois, je sais plus comment il s'appelle, qui va mettre, alors je sais pas si vous connaissez, moi je suis plus sur Twitter, évidemment, du coup, là. Mais à l'époque où j'y étais, qui s'appelait Ratio. C'est-à-dire que la personne, elle fait un post pourri. Il y a un mec en dessous qui va écrire Ratio, et c'est pour dire que si le post Ratio, il fait plus de likes que l'autre, et bah, il l'a humilié un peu, en gros. Et il y a des man de LFI qui font ça sous des posts de gens. Tu dis, bah, les gars, c'est pas votre job, en fait. Enfin. Je me dis du coup ils jouent le jeu un peu de la communication de l'extrême droite, parce que c'est comme ça que l'extrême droite pendant les européennes et tout, là, les législatives, ont fait leur com, c'est sur TikTok, machin bidule. Je me dis, bah les gars, c'est s'abaisser, et du coup à critiquer que ce n'avait aucun fondement, que c'était que du vide, c'était que de l'imagerie pour plaire aux jeunes et tout, sans réel message, avec même des mensonges, des trucs comme ça. Et je veux dire, vous reprenez ces mêmes codes là, quoi. Du coup, c'est quoi le problème? Ça va pas du tout. Enfin, tu vois, il y a un truc. J'ai l'impression que toute la classe politique globalement, hein, tu vas de droite à gauche, ça va pas du tout. Enfin, c'est pas possible. Il y a rien qui va. Même, alors bien évidemment, comme mon cœur va plus d'un côté que de l'autre, c'est évident. Mais même, il y a personne, je trouve, qui porte un espèce d'étendard de clean, tu vois. De.
Ouais, c'est ça. Et puis même, tu prends, toi, on parle de la gauche, mais c'est que même la gauche, finalement, a pas su imposer ses idées, quoi. Donc,
bah, c'est ça.
Mais c'est vrai que quand tu regardes même les propositions. Déjà, ce que le gouvernement appelle maintenant extrême gauche et qui n'en est pas.
Ah, mais alors ça, c'est quand même une dinguerie, putain. Il y a le Conseil constitutionnel qui a tranché, les gars, stop, fin d'histoire.
En plus, et puis quand tu regardes les programmes, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a pas de. Moi, je trouve que ça même pas assez loin, tu vois.
Mais je ne sais plus qui c'est qui ressortait ça, le programme du PS de Mitterrand, ou je ne sais plus quoi, il était 10 fois plus vénère à l'époque que le truc de la mère du Front Populaire. Enfin, c'était.
Ouais, c'est...
Genre, mais le Front Populaire, c'est du pipi de chat à côté, et les gens, ils s'offusent. Non, mais par contre, bah oui, mais là, c'est comme d'hab, on voit ça dans les médias, c'est à géométrie variable, hein. C'est Bolloré qui tient le truc, donc ça veut dire qu'en gros, si un mec de LFI ou de la gauche en général, je sais pas, moi, dit pas bonjour à un enfant dans la rue, on en parle pendant 12 heures, mais si Marine Le Pen, elle est condamnée à 2 millions par rapport à 2 millions d'euros, on en parle 5 minutes. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu on accuse de mots beaucoup plus vénères des petites bêtises de la gauche qu'on ne pardonne à la droite dans les médias mainstream, donc ça donne un peu un ce côté de on tape sur la gauche pour tout et n'importe quoi. Mais tu vois, on disait Poutou pour rigoler, mais c'est fou, je trouve qu'on est dans une époque, ça me rappelle, je sais plus quel débat présidentiel il y avait eu où tout le monde était invité, il y avait Poutou, et il y a une scène où Poutou, quand on lui pose une question, il se retourne de son pupitre et il parle à son équipe, en fait.
Ouais, bah, c'était en 2017.
Ouais, c'est ça, il se retourne et en fait il est raillé par tous les autres. Et je trouve que c'est le move le plus pertinent de tout le débat, en fait.
En fait, j'ai écouté un podcast qu'il avait fait l'année dernière.
Où il expliquait.
Où il parlait de ça. Ouais. Et en fait, lui, il expliquait, c'est que c'est assez intelligent de sa part, que lui, en fait, il n'avait pas la prétention de dire qu'il pouvait tenir tout un débat. Et que eux, au NPA notamment, ils avaient une notion de collectif. Et que du coup, que que du coup, bah, eux, ils étaient pas là en tête de proue à se montrer infaillibles et qui comptaient sur tout le monde pour faire avancer les choses.
Quoi. Et puis, quelle belle image du truc, je trouve, parce que du coup, le fait. Et puis, quand je dis les autres ont raillé, je veux dire, même le monde entier, enfin, la France entière à moitié a trouvé ça drôle. On est dans un truc où du coup, bah, tu préfères la posture du man qui se croit tout puissant et qui représente tout son parti à lui tout seul sans aucun problème, plutôt qu'un man qui du coup préfère avoir le non ego, je sais plus comment dire, la modestie de te retourner et de demander à ses collègues qu'est-ce qu'il pourrait répondre pour être pertinent. Enfin, et du coup c'est lui qu'on raille et c'est les autres qu'on glorifie. Enfin, c'est quand même fou, je trouve. Ça en dit beaucoup. La grande phrase. Ça en dit beaucoup sur notre société.
Mais d'ailleurs, toi, en tant que Poutou illustrateur, tu donnes aussi une grande place au collectif dans ton travail. Tu as l'Amical Graphique, tu as créé Photoshop, vous êtes toute une bande. Enfin, le collectif aussi représente pour toi beaucoup de choses dans ton travail. Quoi.
Bah ouais, moi je trouve ça cool. Je trouve très belle transition, putain. tu m'as surpris. Non, je trouve ça très. Ouais, moi le collectif ça a toujours été important. Quand j'étais jeune, à 15-16 ans, j'étais à Limoges, je suis né à Limoges. J'ai rejoint un collectif qui existe encore, mais ça n'a plus rien à voir, mais ça s'appelle Mégalith Productions. C'était rigolo. Et du coup, on était dans une ancienne usine de porcelaine désaffectée qui était transformée en milieu associatif. Et on faisait de la BD. Et à l'époque, on avait quand même réussi à avoir un stand à Angoulême au festival de la BD, chez les indépendants et tout. Enfin, moi, j'étais gamin. C'était de la tuerie. Avec le recul, maintenant, on était vraiment une bande de branlots avec les cheveux longs et qui buvaient des cafés. Mais à l'époque, c'était le feu. Et du coup, ça te donne vraiment ce truc-là. Je trouve le collectif, c'est trop bien. Ça, basiquement, le collectif, c'est ensemble, on est plus fort, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Mais ça marche partout, hein, dans une équipe, même dans une équipe que t'as choisi ou pas, même dans le boulot. Hein, je veux dire, si les patrons, ils ont plusieurs employés, c'est que ça marche mieux en équipe. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et je trouve que tu progresses plus vite parce que du coup, tu te confrontes. Enfin, tu te confrontes pas. D'ailleurs, t'es à côté d'autres gens qui donnent leurs avis, qui ont leurs techniques. Tu t'inspires, tu te donnes des conseils entre potes. Enfin, je trouve que c'est trop intéressant. Le collectif, c'est trop bien. Et puis, tu te sépares des tâches pour couvrir plus de terrain. C'est tu t'épaules, c'est trop bien. Si t'es évidemment avec des gens avec qui ça se passe bien, mais le collectif, je trouve ça trop important. Et aujourd'hui, du coup, moi j'avais, après quand j'ai commencé à Lyon, j'ai été tout seul pendant très longtemps dans mon appart, machin et tout. Et donc il y a eu quand je suis arrivé à Clermont, il y a eu aussi ce besoin de retrouver ça. Et à Lyon, je trouvais pas trop parce qu'il y avait pas trop de, il y avait des endroits, des ateliers partagés, mais c'était vraiment du coworking où il y avait très peu de rapports. D'esprit d'équipe un peu collectif, moi c'est ça que je voulais. Et à Clermont, je l'ai retrouvé de fou dans l'Amical Graphique. Hein. J'invite les gens à aller jeter un œil sur les réseaux Amical Graphique. Du coup, il y a tous les membres cités et tout. Et du coup, beaucoup d'émulsions, il y a beaucoup de gens très doués, c'est très cool. On est une dizaine à peu près. Et je trouve ça trop important. Et du coup, là et puis ça permet, tu vois, ce métier-là, en plus, on l'apprend même quand tu sors d'école, en vrai, il y a beaucoup de choses que tu sais pas, que tu apprends au fur et à mesure, notamment, je sais pas moi, comment tu montes une expo, comment tu bosses pour ce genre de trucs-là, tu vois, plein de trucs que tu sais pas, que tu découvres au fur et à mesure. Et du coup, en étant en collectif, tu vas beaucoup plus vite. C'est-à-dire que chacun vient avec son expérience perso qui est évidemment toute différente. Là, on est 10, par exemple, il n'y en a pas un qui gagne sa croûte de la même manière. C'est assez ouf. Quand même, alors qu'on est tous artistes, sérigraphes, graphistes, tu vois, il y a tout un mélange de plein de gens, même de l'origami on a là, c'est assez fou, mais du coup chacun mange différemment, c'est assez fou, donc on se partage des trucs et tu progresses beaucoup plus vite. Là, moi j'ai jamais monté une expo, justement on est en train d'essayer de voir pour en monter une pour Photoshop justement là, et ça c'est fou, tu vois, j'aurais jamais fait ça tout seul dans mon coin, c'est clair et net, trop de taf que je connais pas, je sais même pas par où commencer, tu vois. Bah, le fait d'être 10, bah, y en a qui ont un peu plus d'expérience, du coup on partage et machin. Même quand tu veux faire un truc, tu vas avoir des projets, et ben en fait il y a des trucs auxquels t'aurais pas pensé, même légalement, tu vois, l'autre jour on voulait lancer je sais pas un événement, et il y en a un qui dit ouais mais en fait ça on n'a pas le droit parce que l'escalier il est pas aux normes, et du coup ben s'il y a un contrôle ils pourront, enfin tu vois ce que je veux dire, en fait ouais, ça ouais, moi j'avais ouais. pensé. Et en fait du coup d'être 10, et ben chacun ramène un peu de son vécu et de son expérience, et du coup ça complète le tout, ça c'est fou.
Et tu sens que depuis que t'as rejoint l'Amical Graphique, que ça a pu avoir une influence sur ton travail en tant que tel ou pas forcément, mais
Ouais, c'est sûr. Bah déjà, je faisais pas de sérigraphie avant d'arriver là-bas. Je connaissais même pas, tu vois. Je savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai tout appris tout seul devant mon ordi, donc c'est un peu particulier. Mais ouais, déjà, je pense même. On parlait toi tout à l'heure de la légitimité à faire des trucs un peu militants et tout. Je pense que c'est d'autres dans l'atelier, pas tout le monde, mais d'autres ont un peu ce mood-là aussi. Donc en fait, ça te ça te galvanise et puis ça te dit bah lui il a l'air de pas non plus mourir il est pas cancel de nulle part alors qu'il fait des trucs de gauche, tu vois, ça va, tu vois ce que je veux dire, il y a un peu, ça t'encourage un peu aussi, ça te montre un peu les autres donc ouais ça m'a apporté beaucoup. Et même techniquement, je pense, tu vois, on a fait une réunion l'autre jour, j'en parlais aussi, je disais moi je pense c'est sûr que ça fait 2 ans que je suis là-bas, en 2 ans je pense que j'ai progressé comme en 10 ans tout seul, je pense, tu vois, il y a un truc comme ça. Je revois des illustrations que je faisais il y a 2 ans, que t'es pas si dégueulasse, mais je trouve que j'ai vachement progressé. Enfin, il y a un truc, je suis allé sur des terrains que j'aurais pas été tout seul, parce que voir d'autres faire des trucs, ça donne envie aussi, tu vois, c'est une force de fou. Et, mais je dis ça, j'ai aussi un setup à la maison, où je suis très content aussi de faire des soirées, des fois, machin, où je suis tout seul dans ma bulle, avec ma musique, mon truc, parce que du coup, le collectif, ça veut dire aussi beaucoup d'échanges. Enfin, ça dépend comment ça se passe, mais chez nous, il y a beaucoup d'échanges et tout, et donc, objectivement, tu bosses un peu moins efficacement, mais ça t'apporte tellement d'autres choses à côté que c'est pas du perdu non plus. Mais forcément, c'est bien aussi de fois avoir son espace avec sa bulle et tu turbocharges le truc. Mais voilà, c'est moi ma vision du collectif, elle est un peu là-dedans. Et puis surtout, tu vois, il y a un truc, moi, je trouve ça cool. Tu vois ce que je veux dire, il y a un truc de, c'est cool d'être le perso solitaire un peu. Tu sais, t'es un peu badass, mystérieux, mais je trouve que quand t'arrives dans une équipe, t'en imposes plus. Je trouve ça trop stylé, tu vois. Moi, je suis un enfant du manga, hein. Donc tu vois, je suis dans le shonen.
Puis comme tu disais, ça crée de l'émulsion, quoi. Donc c'est.
Bah même, tu vois, dans la musique, je trouve ça cool à l'époque, donc, des rap, les crews, les trucs, c'est trop bien.
Donc fatalement, quand ça crée de l'émulsion, ça, bah tu fais de la sérigraphie.
Ouais. Bah ouais, maintenant, genre, bah après, là, ça fait comme si c'était devenu mon métier, mais en fait, j'en fais pas tant que ça. Mais c'est effectivement un biais qui m'a permis de raccrocher. À un moment, j'avais un peu des questionnements parce que moi, je bosse énormément en numérique en fait. Hein, maintenant, j'ai quasiment, depuis que je me suis lancé en freelance, je suis quasiment que du numérique et que j'adore, c'est trop bien. Enfin, je suis trop confort, je trouve ça, c'est ce qui me correspond. Mais du coup, j'avais l'impression de perdre un peu de légitimité ou de palpable par rapport justement au milieu artistique, un petit peu comme si trop assisté par une machine, presque, un petit peu dans l'idée, je me dis, et puis à force de pratique, je dois avoir vachement perdu en traditionnel, du coup je me dis, est-ce que si tu m'enlèves ma tablette graphique, est-ce que je suis capable de faire les mêmes dingueries? Je ne pense pas, en réalité, puisque ça n'a rien à voir à la technique de colorisation, par exemple, tu vois. Donc c'est sûr que tu m'enlèves mon ordi, j'ai pas le même niveau, mais parce que mon outil c'est l'ordi, mais ça me faisait un peu bizarre. Mon crayon, c'est l'ordi, quoi, en gros, on va dire. Même si finalement sur la tablette graphique, je fais du trait, quoi. Enfin, c'est comme si j'étais au crayon.
Tout à fait, ouais.
Mais le traitement des calques, des machins, le fait de pouvoir revenir en arrière, enfin, c'est quand même très différent. Mais ouais, ça m'a permis de. J'avais besoin de me rapprocher à un truc, un peu d'artisanat, en fait. Tu vois, un petit peu de palpable, un peu. Tu vois, j'avais besoin de. Parce qu'une impression numérique, c'est sympa, mais c'est pareil, c'est pas contrôlé, il y a pas d'erreur. Tu vois, c'est une machine qui fait le truc parfait. Il y a pas de vivant dedans.
Ouais, il y a pas la patte de la personne qui le fait, quoi. Enfin.
Et puis du coup, il y a même pas non plus de. Même s'il y a pas la patte sensitive entre guillemets, il y a pas non plus l'application technique intéressante. Tu vois, parce que la sérigraphie, j'en ai pas encore fait des très compliqués, mais ne serait-ce que faire 2 couleurs un peu complexes que propres, il y a un truc pour ceux qui savent un peu, 2-3 couleurs machin, bah tu te dis si c'est propre, c'est que le mec ou la meuf ils ont géré, tu vois, genre. Et il y a un côté aussi réussite technique à réussir à sortir quelque chose soi-même à la main qui est assez ouf. Enfin, je vais pas vous l'apprendre à vous, en fait, aussi de la sérigraphie. Mais effectivement, ouais, c'était un besoin que j'avais de rapprocher. Ouais, c'est comme si je trichais un peu en faisant que du numérique, je sais pas comment expliquer, mais c'est peut-être, ça regarde peut-être que moi, hein, et c'est pas du tout une critique envers ceux qui font que du numérique, c'était ma sensibilité.
Ouais, t'avais besoin de sortir un peu le support.
Ouais, j'avais besoin de raccrocher un truc plus palpable, plus, mais je mets les mains dedans, parce que là, au final, c'est quand même un bureau, un fauteuil confortable, un stylet, et let's go, tu vois, et puis ça peut durer 12 heures, tu vois, il y a un truc de, on reste propre, tout va bien. Là, j'aimais bien un peu le côté mettre les mains dedans, manipuler, sortir des vrais prods avec des vraies feuilles, c'est toi qui as tout choisi, tu vois, il y a un truc un peu cool là-dedans qui est très... Et puis du coup, il y a pas mal de contraintes aussi, parce qu'en numérique, tu balances un truc hyper complexe, il n'y a pas de problème. En sérigraphie, tu vas pas faire un 256 couleurs, enfin, tu vois, c'est un peu compliqué.
Donc,
ça t'impose aussi à faire des recherches dans ton travail, pas de le simplifier. Pardon, parce que ça reste très complexe quand même, à sa manière, mais du coup, de changer un peu ta pratique pour correspondre à l'outil, et du coup, d'aller chercher, d'essayer de faire des trucs qui te plaisent toujours, mais dans un truc que t'as pas forcément, dans un traitement d'image que t'as pas forcément l'habitude d'avoir, donc de faire des recherches un peu là-dedans, Et c'est assez cool.
On avait une dernière question.
Ouais.
Et on fait suite à ton mail. On voudrait savoir quand est-ce que tu deviens une légende.
C'était quoi déjà l'objet de mon mail? Je suis vraiment...
C'était Thomas Billou, la légende.
Il faut que j'arrête, ça fait 20 ans que je me dis qu'il faut que j'arrête. Les gens ils pensent que je suis trop un branleur de l'espace. Alors c'est un peu vrai, hein, mais avec, comme on disait tout à l'heure, avec un équilibre d'énormément de modestie, je veux dire. Enfer. Donc Thomas Billou tiré à la légende. Bah écoute, mon Patreon étant... non, je sais pas du tout. Est-ce que c'est un but de devenir une légende? Non, moi vraiment, moi si tu me... Alors ça dépend de l'inflation, mais là aujourd'hui, si tu me donnes 2005 par mois, je suis le roi du pétrole, tu vois ce que je veux dire? Tu me donnes tous les mois 2005 dans la vie d'aujourd'hui et j'ai pas besoin de plus, j'ai pas des prétentions de vie, j'ai pas envie d'avoir un yacht, je m'en bats les couilles, tu vois, il y a un truc de... Moi, j'aime bien la vie quand je suis pas en stress tous les trois jours à checker mon compte, savoir si je peux faire une carte bleue ou pas, ce qui a été le cas pendant plein de moments de ma vie. Tu vois, j'en demande pas plus. Et après, tu te démerdes, et tu essaies de mettre un peu de côté, si tu veux faire des extras un peu machin, ça se fait, tu vois. Mais moi, du coup, ce serait ça mon kiff. La légende, après, évidemment, je vais te dire ça, c'est très hypocrite parce que évidemment, je pense que tout le monde rêve un peu d'être connu pour ce qu'il fait, quel que soit son truc, pour un truc positif en tout cas. Mais on a conscience que c'est pas une fin en soi. Et puis du coup aussi c'est peut-être un travail sur soi-même de se dire si la société elle évolue, est-ce qu'on a besoin de héros comme ça ou de l'héros? C'est pas, j'ai pas envie de devenir un héros, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'on a besoin de glorifier des gens?
Ouais, peut-être pas, hein. Non mais c'est clair.
Est-ce qu'on peut se contenter de vivre tous ensemble au même niveau social, tu vois, et de pas en mettre... Mais bon, en même temps on a besoin d'inspiration, je sais pas trop, c'est une vaste question. Mais du coup voilà. Moi, j'aime bien surtout flamber et faire des grosses vannes.
Oui, notons quand même que c'était du... Tu l'as bien dit, c'était du 7e degré dans le mail, quand même.
Ah oui, alors, bien sûr. Parce que je savais très bien que vous le... Mais moi, je suis un peu comme ça. Là, j'ai l'agence de com avec qui je bosse, je leur envoie régulièrement des gifs de boomer, évidemment, de quand j'ai fini un truc ou de gifs du mec qui s'élève de son bureau et qui saute par la fenêtre, tu vois. parce que genre, il est 2h du mat, c'est un truc en rush. Ah, c'est fini. Allez, c'est bon, zoubi. L'autre jour, j'ai négocié des trucs, j'ai envoyé un gif d'Obi-Wan qui dit « Hello, enfin, toi, je fais n'importe quoi, je leur ai demandé des pourcentages sur les trucs. Faut peut-être que je me calme un peu, mais c'est rigolo, faut rire. Faut rire, mais jamais au détriment des autres, c'est ça.
Et ben merci Thomas.
Merci à vous les gars.
Merci, ouais. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site, dans la description de cet épisode, rubrique blog pour découvrir le travail de Thomas, ainsi que son podcast Photoshop et l'Amical Graphique. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de SynthNothing en tapant synth.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.